Intégrer la nature à l'expérience de la bibliothèque. Vous vous demandez peut-être pourquoi le choix d'un sujet si étrange, a priori. Eh bien, on pourrait partir d'une petite anecdote personnelle. Lorsque, dans le cadre de mes études, je travaillais au rez-de-jardin de la Bibliothèque nationale de France, j'essayais toujours de faire en sorte de réserver une place qui me permettait de voir le jardin. Et quand je me retrouvais placée sur l'une des tables filantes, vous savez, d'où on ne voit qu'un mur, eh bien, je passais en général une mauvaise journée de travail. Et sans doute, comme beaucoup d'étudiants et de chercheurs qui venaient là, je me demandais pourquoi ce jardin n'était pas accessible au public. Et bien sûr, je rêvais de la possibilité d'y entrer. Plus largement, je me demandais aussi pourquoi les bibliothèques que je fréquentais, et plus tard les bibliothèques dans lesquelles j'ai travaillé, n'exploitaient pas davantage les possibilités offertes par les espaces naturels qu'elles avaient à leur disposition. J'ai donc constaté qu'il y avait un écart important entre ma perception du rôle que pourrait jouer la nature dans une bibliothèque et le peu de rôle qu'elle y jouait dans les faits. Mais bien sûr, ma perception de cet intérêt de la nature pour la bibliothèque ne reposait ici que sur une intuition, sur quelque chose de très subjectif. Elle n'allait pas au-delà de mon expérience individuelle. Et donc, il était vraiment impossible d'opposer cette vision subjective à ceux pour qui bibliothèques et jardins n'ont rien à faire ensemble. Et c'est pour cela que je me suis demandé s'il existait des arguments solides qui pourraient corroborer cette vision subjective. En faisant des recherches sur ce sujet, j'ai donc découvert l'existence de tout un champ disciplinaire qui étudie la relation entre l'homme et son environnement. Il s'agit de la psychologie environnementale. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline qui s'est développée à partir des années 60 dans les pays anglo-saxons et qui s'est très rapidement implantée également en Europe du Nord, en particulier en Suède. Je vais faire un petit excursus sur cette discipline qui est sans doute peu connue de notre profession. Donc, c'est une discipline qui était très fortement liée au départ à la psychologie sociale, mais aussi à l'architecture et à l'urbanisme. Et on la trouvait même à ses débuts parfois désignée sous l'expression de psychologie architecturale. Les laboratoires de recherche qui se sont créés dans les années 60, d'ailleurs, réunissaient des psychologues, des sociologues, mais aussi des urbanistes et des architectes, par exemple. Et on voit que d'emblée, donc, ça a été une discipline qui était transdisciplinaire. Pour comprendre un petit peu mieux de quoi traite la psychologie environnementale, on peut partir des enjeux urbanistiques des années 60. Vous savez que c'est l'époque où on commence à construire des grands ensembles, donc l'époque de l'habitat collectif, qui va permettre de loger rapidement un grand nombre d'individus. Mais vous savez aussi qu'avec le développement de ce type de logement, on prend conscience de la difficulté de faire cohabiter dans un même lieu un grand nombre de personnes. Et cela va engendrer une réflexion sur les conditions du bien-être des individus dans l'habitat. Et effectivement, l'une des finalités de la psychologie environnementale à ce moment-là, ça va être d'aider les architectes et les urbanistes à concevoir des espaces qui répondent aux besoins des communautés qui les habiteront. Donc pas seulement du point de vue strictement pratique, du logement, mais aussi du point de vue plus difficile à mesurer, a priori, du bien-être des habitants. L'un des axes de travail des psychologues environnementalistes consiste dans l'étude des relations entre l'homme et la nature. Mais, bien sûr, il y a de multiples façons d'appréhender ces relations entre homme et nature. Par exemple, il y a celle des anthropologues, des botanistes ou des écologues. Et pour mieux cerner la spécificité de la psychologie environnementale, on pourrait ici la comparer à l'écologie. Donc l'écologie, elle se penche sur la nature comme ensemble dont l'homme fait partie. Elle va étudier le fonctionnement de cet ensemble, ses équilibres, ses déséquilibres, en adoptant, si on veut, un point de vue surplombant, donc point de vue sur un système tout entier. La psychologie environnementale, elle va se placer au niveau de l'individu. Donc elle va regarder de plus près les relations entre l'individu et ce système. Elle va analyser la façon dont les individus perçoivent leur environnement et la façon dont les individus vont réagir aux caractéristiques de l'environnement. Donc en quelque sorte, elle va établir des liens de causalité entre perception d'un espace et comportement des personnes qui se trouvent dans cet espace. S'il ne faut retenir qu'une seule chose ici, je dirais que c'est le fait que la psychologie environnementale met en évidence les liens entre individus et espaces pour comprendre pourquoi certains espaces provoquent des réactions positives. Par exemple, on s'y sent bien, on a envie d'y entrer en relation avec d'autres personnes, on y travaille efficacement. Et en miroir, on va se demander pourquoi certains types d'espaces génèrent des réactions négatives en favorisant le stress, l'agressivité ou par exemple la fatigue mentale. L'étude des liens entre l'homme et la nature procède de la même préoccupation, puisque la psychologie environnementale va chercher à montrer en quoi la présence d'éléments naturels dans un environnement, environnement de vie ou de travail, peut accentuer ces réactions positives et diminuer certains effets négatifs, notamment en milieu urbain. Nous arrivons ici donc au cœur de notre propos, puisque ce que j'aimerais regarder aujourd'hui, c'est en quoi ces recherches consacrées à l'impact de la nature sur l'homme peuvent nous aider à concevoir des bibliothèques dans lesquelles nos usagers se sentent bien et qui favorisent réellement leurs différentes activités. Et je propose de répondre à cette question à travers trois axes successifs. Donc en étudiant la nature en tant que facteur de bien-être pour nos usagers, la nature comme créateur, créatrice, pardon, ou le jardin comme créateur de liens sociaux. Je terminerai sur un point qui met en relation la nature et nos capacités de concentration. Et puis, en guise de conclusion, je voudrais poser une question peut-être un peu polémique sur quel modèle de bibliothèque sommes-nous réellement prêts à défendre quand nous parlons de l'intégration de la nature dans la bibliothèque. Alors pour traiter de ces différentes questions, je vais m'appuyer tout au long de ce parcours sur des études qui ont été produites en psychologie environnementale. Je vais passer plus ou moins rapidement sur les expériences qui ont été faites. Je vais entrer un peu plus avant dans certaines. Alors simplement pour vous offrir un aperçu de la manière dont les chercheurs en psychologie environnementale travaillent, puisque au-delà de la problématique de la nature, l'enjeu pour moi ici, c'est également de proposer un outil pour penser un nouvel outil, un autre outil, pour penser les espaces de la bibliothèque. Et donc, il me semble important de voir un peu comment on travaille dans ce domaine-là de la recherche. Je vais aussi passer en revue quelques exemples concrets de bibliothèques qui ont intégré plus ou moins fortement la nature à leurs espaces, à leurs services. Je ne vais pas pouvoir m'y attarder beaucoup, mais je crois que Floriane de Riva, qui va parler après moi, va le faire davantage. Et donc, je la laisserai volontiers développer ce point-là de la réflexion. Et en revanche, je vais profiter de mon intervention pour vous projeter des photographies de jardins, d'espaces naturels en bibliothèque, car comme je vais pouvoir vous le montrer très très vite, voir des images de nature, même sous forme de photographies, notamment en grand format, contribue à diminuer la fatigue mentale et aide efficacement à soutenir la concentration. Alors, premier point, la nature comme facteur de bien-être pour les usagers des bibliothèques. Je vais me situer essentiellement en milieu urbain, bibliothèque en milieu urbain ici, puisque notre environnement quotidien, en particulier en contexte urbain, est riche. Il nous offre de nombreuses occasions de contact, d'apprentissage, de découverte. Mais selon les psychologues environnementalistes, cet environnement est aussi caractérisé par ce qu'ils appellent les stress interpersonnels, et qui sont dus, sans surprise, notamment à des densités de population importantes. C'est-à-dire que dans les exigences diverses de notre vie quotidienne urbaine, qu'elles soient scolaires, professionnelles ou familiales, peuvent conduire à un certain mal-être, en fait à un trop-plein d'informations et de sollicitations. Et sur ce plan, il se trouve que de nombreuses recherches ont montré l'impact positif de la nature sur la réduction de ces stress interpersonnels. Cet impact a été mesuré aussi bien chez des individus qui bénéficiaient d'une vue de la nature que chez les personnes qui étaient immergées dans un milieu naturel. Je vais citer sur ce point deux recherches, deux expériences produites en psychologie environnementale. Donc, exemple de stress, alors là, pas interpersonnel, mais physique, puisque ça relève de l'audition, comment nos capacités de concentration vont être mises à rude épreuve, parce qu'on va, avoir des perturbateurs au niveau auditif. Donc, très intéressant pour nous, ici. Donc je reviens à mes expériences qui ont été produites en psychologie environnementale. La première a été menée en 1998 par des chercheurs américains du Texas auprès de 176 étudiants américains. Et dans le cadre de cette expérience, ce qu'on faisait, c'est qu'on provoquait un stress modéré chez des participants alors c'est pas très drôle là, en projetant un film sur la prévention des accidents du travail. Et donc les chercheurs montraient ensuite, après cette première vidéo, montraient aux participants une vidéo qui représentait un paysage qui défile, un peu comme si vous rentriez chez vous en voiture. Donc vous voyez en fait un paysage mouvant. Et ce paysage, selon les groupes de participants, changeait. Pour certains, c'était un paysage qui était dominé par des éléments naturels. Et pour certains, c'était un paysage qui était dominé par du bâti. Donc paysage industriel ou paysage de logement, en fait. Après le visionnage, on remettait les étudiants dans une situation qui élevait leur niveau de stress. Alors qu'est-ce qu'on faisait concrètement ? On leur faisait exécuter un test psychologique qui était basé sur des opérations de calcul mental. Donc c'était un peu pour leur donner le sentiment que ce qu'on allait mesurer, c'était leur capacité de calcul mental. Mais on sait, sur la base d'autres expériences antérieures, que ce type de stress, en fait, élève le niveau de stress. Parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils doivent bien faire, en fait, ils doivent donner bonnes réponses. Et donc, les résultats ont montré que les étudiants qui avaient visionné entre-temps la vidéo qui montrait un paysage naturel voyaient leur niveau de stress décroître lors du film qui montrait les images de nature, et ils étaient aussi moins stressés ensuite pendant l'étude qui était basée sur les exercices de calcul mental. Et au contraire, chez les étudiants qui voyaient uniquement du paysage bâti, ou majoritairement bâti, il n'y avait aucune diminution du stress. Donc le niveau de stress était plus élevé que chez les autres. Et du coup, les niveaux de performance aussi dans l'exercice de calcul mental étaient meilleurs chez ceux qui voyaient des images de nature. Et alors, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'on voyait aussi que l'exposition à ces vues de la nature n'a pas besoin d'être nécessairement prolongée. C'est-à-dire que les images de la nature peuvent apparaître entre des images de paysages bâtis, elles ont quand même un impact positif. Donc ça veut dire que voilà, on n'a pas besoin forcément d'être immergé pendant une heure dans la nature pour obtenir un effet positif, un effet relaxant en l'occurrence. Là, on a donc vu en œuvre une expérience qui traite de la vue de la nature. Il y a également des expériences qui ont traité de l'immersion dans un milieu naturel, du contact direct avec la nature. Et là aussi, ces expériences ont montré que cela réduisait les niveaux de stress. Rachel Kaplan, par exemple, a mis en évidence les effets positifs de la présence d'espaces verts dans le voisinage du lieu de travail, sur l'humeur et sur le bien-être général des professionnels. Et elle a fait remarquer que ces effets étaient mesurables, même si dans les faits, les personnes ne passent pas beaucoup de temps dans les espaces verts. Donc là, il y a eu en fait beaucoup d'études sur ces éléments-là. Il y a eu également une étude suédoise qui m'a paru tout à fait intéressante dans les années 2000, qui montrait que les personnes qui avaient un environnement de travail plus vert le trouvaient plus agréable et que cela réduisait aussi le turnover en fait sur les lieux de travail. Et que le sentiment général de bien-être au travail, il était corrélé à la présence de nature. Et ce qui peut être intéressant pour nous, en tant que professionnels des bibliothèques, c'est de voir aussi que cette présence de la nature, elle va avoir un impact sur la perception que nous avons des lieux. Donc pas seulement la perception que nous avons de notre bien-être, mais la perception que nous avons des services qui sont offerts dans ces lieux. Là, j'aimerais revenir sur une expérience américaine qui a travaillé sur l'ajout de plantes vertes dans les salles de classe et l'impact sur les étudiants. Alors initialement, c'était une expérience qui voulait vérifier si les étudiants qui avaient accès à des classes avec plantes vertes auraient de meilleurs résultats aux examens. Mais finalement, le résultat le plus important qui a été mis en évidence, ce n'était pas celui-là, ça a été celui de l'impact sur l'évaluation du cours et du professeur et de l'implication du professeur et de l'envie d'apprendre. C'est-à-dire que dans les groupes qui, avec les mêmes enseignants, le même type de cours, même type de support de cours, avaient accès à des classes avec plantes vertes. En fait, ces étudiants, au moment de l'évaluation, c'est l'évaluation qu'on fait passer en fin de cursus sur la qualité de l'enseignement et l'efficacité, eh bien, les étudiants qui avaient accès aux classes avec plantes vertes trouvaient que leur enseignant était plus investi, que le cours était plus intéressant, et eux-mêmes disaient qu'ils avaient eu envie davantage de travailler. Donc on voit un impact aussi sur la perception de ce qui se passe en fait, dans le lieu où il y a une présence de nature, y compris sous une forme vous voyez, qui n'est pas spectaculaire, parce que c'est un verdissement finalement assez réduit avec ces plantes vertes introduites dans la salle. Alors comment utiliser cela dans les bibliothèques et quels exemples on pourrait en donner ? Donc là, je vais passer assez rapidement. Mais pour vous dire qu'en bibliothèque, cela ne veut pas dire que les bibliothèques vont se transformer, dans mon esprit, hein, en substitut de parcs urbains. Hein, on va permettre aux gens de se relaxer. Ça peut passer par des choses assez simples, du type profiter de l'aménagement existant en tournant, par exemple, les tables de travail, de lecture, les lieux de consultation vers la nature. Donc là, un exemple de la bibliothèque municipale d'Angers, qui a un grand mur entièrement en verre, et où on a effectivement comme ça des tables qui tournent le dos à la salle, et on a un petit peu une impression comme ça d'immersion. Donc là, c'est vu d'un peu plus loin. Pour vous dire que quand on est au rez-de-chaussée de la bibliothèque Toussaint, en fait, on a l'impression d'être un peu déjà dans le parc qui est à côté, donc le jardin des Beaux-Arts. Donc la vue, même chose, vue du dessus, donc vue de l'espace presse. Alors là, c'est un petit peu sombre du coup avec cette présentation, mais là c'est le réaménagement en fait de la bibliothèque municipale de Tours qui avait complètement tourné le dos à la Loire, et donc un réaménagement par Jean-Romain Giraudet qui a créé un espace. Donc là, en fait, on le voit pas très bien, mais l'espace avec les fauteuils qui sont disposés là, en fait, il donne vraiment sur la Loire. Donc là, on peut observer les castors, si on reste tard à la bibliothèque, par exemple, ou tout simplement l'eau. Et pour aller plus loin, on peut imaginer, on peut penser à toutes ces manifestations où les bibliothèques sortent dans les jardins, où là, c'est le bord de Loire, en fait, qui a été investi toujours par la bibliothèque municipale de Tours à l'occasion d'un festival organisé par la ville. Donc, pour offrir un contact avec la nature, et on avait sorti une partie des collections qui étaient à disposition des lecteurs. Ou encore moins spectaculaire en apparence, mais qui peut être tout à fait plébiscité par les lecteurs. Alors, je suis désolée, parce que je vois que j'ai l'impression que la luminosité n'est pas très bonne. Mais là, donc, ce sont des plantes vertes qui ont été tout simplement disposées à la bibliothèque SHS à Paris-Descartes et qui créent un effet, quand on rentre dans la bibliothèque, en quelque sorte de familiarité. On a installé là quelque chose qui marque très fortement le contraste avec le lieu d'où on vient, parce que si vous êtes déjà entré dans cette bibliothèque, vous savez qu'on traverse un hall absolument minéral et très très froid avant de rentrer dans cette bibliothèque. Et donc, on a des plantes vertes qui ont été vraiment plébiscitées par les lecteurs quand ils ont été installés. Donc, c'était il y a peu de temps, en 2012, avec des réactions de lecteurs qui disaient « Oui, j'ai l'impression que la bibliothèque est transformée, en fait. » Donc, des lecteurs qui appréciaient vraiment ce service, voilà, qui n'est pas très, très impressionnant de prime abord, mais qui est remarqué. Après, on peut aller vers des expériences beaucoup plus spectaculaires, comme celle qui a été réalisée en 2012 à l'université Cornell aux États-Unis, où on a installé du gazon, alors du véritable gazon, mais vous savez, sous forme qu'on peut dérouler, dans deux BU du campus, en période d'examen, avec vraiment le but de réduire le stress chez les étudiants en période d'examen hivernal où l'accès à la nature était bien sûr plus difficile. Et pareil, des espaces qui ont été extrêmement sollicités, vraiment plébiscités par les lecteurs. Alors, second point par lequel on peut appréhender ce lien entre espace vert et impact sur les individus, c'est la question des liens sociaux. Les relations que crée le jardinage. Je vais passer plus rapidement sur ce point parce que je pense que c'est un point qui est peut-être qui vous paraît davantage familier et puis dont Floriane peut-être sera amenée aussi à parler à travers certains exemples. Mais donc très brièvement, qu'est-ce qui a été fait au niveau psychologie environnementale sur ces questions ? Eh bien, il y a eu des études consacrées au jardinage en général et au jardin partagé en particulier. Donc, ce qui nous intéresse ici, puisque dans les bibliothèques, nécessairement, on n'est pas dans le cadre du jardinage individuel. Et ces études ont confirmé le rôle fédérateur du jardinage. Et ils ont également mesuré l'impact du travail du jardin sur la perception des lieux de vie par les citadins. Donc, par exemple, une étude américaine qui a été menée auprès d'habitants d'un quartier de Denver aux États-Unis en 2009, qui a montré que ceux qui cultivaient une parcelle d'un jardin partagé étaient plus attachés à leur quartier et avaient une perception positive, beaucoup plus positive, que ceux qui n'avaient pas d'activité de jardinage. Et il y a eu d'autres études menées par le même laboratoire de psychologie environnementale dans la même ville sur la façon dont le jardinage influait sur la sociabilité et favorisait le développement de liens d'entraide plutôt que de liens de concurrence, et donc changer la perception des liens que les voisins avaient les uns des autres. puisque il induit des rencontres entre personnes d'horizons socioculturels différents qui, sans cela, auraient peu de chances d'entrer en relation. Donc on voit en fait qu'il y a aussi cet aspect du jardinage qui est que c'est assez, enfin je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais transclasse, c'est-à-dire que ça peut intéresser toutes sortes de catégories de population. Et ce qu'on voyait à Denver, notamment, c'est qu'on avait affaire à un quartier où la perception du quartier globalement était assez négative, puisqu'il était le siège d'une relative insécurité, puis il était perçu comme tel, en raison notamment de trafic de drogue important, et que le jardin, au contraire, était perçu comme un espace sûr, où on se sentait bien et en sécurité. Et pourtant, vous voyez que c'est un espace qui n'est pas fermé. Enfin, on pourrait très bien imaginer que c'est un espace de passage où les gens, justement, ne se sentent pas en sécurité. Et en ce qui concerne le lien avec les bibliothèques, il me semble qu'il est assez évident, puisque les bibliothèques sont aussi des lieux de vie, des lieux de rencontre, qui peuvent devenir des points centraux d'un quartier, d'une communauté locale. Donc, pourquoi pas utiliser le jardin et les activités qu'il induit pour contribuer à ce rôle des bibliothèques. Et bien sûr, on a déjà des jardins participatifs qui existent dans certaines bibliothèques. Vous connaissez peut-être Louise Michel à Paris. Petit jardin, dans lequel les usagers ont vraiment une place, puisqu'il est essentiellement géré par les habitants du quartier. D'ailleurs, les bibliothécaires ne parlent plus d'usagers, mais d'habitants à Louise Michel. Il a une grande autonomie en fait dans ce jardin. Donc là, exemple de bacs de semis, de compost, de petits potagers en carré, avec des expérimentations qui sont faites essentiellement par les lecteurs et très peu pris en charge en fait par les bibliothécaires. Autre exemple, celui de la bibliothèque Centre-Ville de Grenoble, donc la BM de Grenoble, qui ont mis en place un potager sur la terrasse, donc qui a été lancé en collaboration avec une association de verdissement des villes, et qui fonctionne en fait en hydroponie, enfin au départ en hydroponie, mais ensuite en aquaponie pour des questions écologiques. Donc le petit récolte qui a été utilisé dans des ateliers de cuisine, une treille végétale qui permettait aussi de réduire l'ensoleillement de cet espace, de cette terrasse qui était quasi inutilisable en été parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc vous voyez, on a aussi une utilisation pratique de cet espace. Et donc le résultat potager très fourni en fin d'été. Donc c'est un potager qui existe depuis 2009 et qui d'année en année en fait est réinvesti par les bibliothécaires et les personnes qui se rendent à la bibliothèque. Après on a bien sûr des exemples plus manifestes, plus peut-être qui vont plus loin, comme celui de la bibliothèque publique de Cicero aux États-Unis, qui là prête des parcelles à cultiver à tout lecteur en possession d'une carte de bibliothèque. Donc, il peut, comme on emprunte un livre, on emprunte en fait une parcelle de potager. Alors, est-ce que j'ai mis ? Non, je vais revenir en arrière. Alors, pour passer au point suivant, ou sur lequel je vais m'attarder un peu plus longuement. Là, les liens entre nature et aide à la concentration. Alors, tout un pan de la recherche en psychologie environnementale s'est penché sur l'impact de la nature sur l'attention. Je vais citer en particulier Stéphane Kaplan. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Rachel Kaplan, mais là, c'est un autre chercheur du même laboratoire, mais voilà, homonyme. C'est un chercheur américain qui a développé la théorie de la restauration de l'attention. Mais pour en parler, je vais d'abord m'arrêter un peu sur ce concept d'attention lui-même. De quoi parle-t-on quand on emploie le concept d'attention ? Eh bien, d'attention volontaire, c'est quelque chose qui est sollicité dans le cadre de nombreuses activités. Par exemple, lire ou comprendre un texte, rédiger, résoudre un problème, mais aussi conduire, par exemple, ou pourquoi pas écouter une communication lors d'une journée d'études. Et vous l'aurez deviné, ou vous l'aurez peut-être expérimenté ici même aujourd'hui, l'attention dirigée facilement se fatigue, en fait, facilement. Et lorsqu'elle se fatigue, on aboutit à ce qu'on appelle la fatigue mentale, qui nous rend tout simplement moins efficaces dans nos activités. Et cela explique, par exemple, qu'on va moins bien mémoriser l'information ou qu'on va avoir tendance à moins bien analyser et résoudre un problème. Il est donc essentiel, notamment en contexte d'apprentissage, que cette attention dirigée, cette attention volontaire, puisse se régénérer. Stéphane Kaplan, justement, a étudié le processus qui conduit à la fatigue de l'attention. Mais en vis-à-vis, il a étudié la façon dont l'attention pouvait aussi se restaurer. Et donc, il a fait des expériences où les participants étaient invités à résoudre une série de problèmes. Grâce à cela, il a établi que la restauration de l'attention dirigée passait tout simplement par le fait de ne plus la solliciter pendant un certain temps pour lui permettre de se reposer. Mais il a aussi montré que cette restauration se produisait plus rapidement lorsqu'on ne se contente pas de ne plus solliciter l'attention dirigée, mais lorsqu'on fait appel à ce qu'il appelle l'attention non dirigée ou l'attention involontaire. Et Kaplan s'est appliqué à établir quels environnements ou situations sollicitaient particulièrement l'attention involontaire. Ces recherches ont donc montré que la nature, en particulier, induisait une régénération plus facile et rapide de l'attention parce qu'elle faisait appel à cette attention involontaire. Je vais citer ici quelques études qui se sont arrêtées sur cet aspect, qui ont fouillé en fait ce qui a été les intuitions de Kaplan. Donc, par exemple, une étude américaine qui a étudié les performances cognitives d'étudiants de premier cycle en lien avec la vue qu'offrait la fenêtre de leur logement. Donc, il s'agit d'étudiants qui habitaient en logement étudiant, en chambre de cité universitaire, et qui ont été répartis en quatre groupes en fonction du paysage sur lequel qu'offrait en fait leur fenêtre. Donc, sachant que les logements étaient strictement identiques par ailleurs, enfin, ou à quelque chose près, et donc offraient le même confort. Et donc il y avait des logements qui donnaient sur un paysage entièrement bâti, d'autres qui donnaient sur des paysages semi-bâtis, plus ou moins bâtis, et puis ensuite des paysages avec uniquement du bâti, uniquement des logements ou l'université. Et dans le cadre de cette expérience, dans la chambre même, dans leur chambre de logement étudiant, les participants ont été soumis à plusieurs tests standardisés qui permettaient canoniquement de mesurer l'attention. Et les résultats ont montré que les groupes d'étudiants qui bénéficiaient d'une vue sur un paysage entièrement naturel avaient de meilleures performances que les trois autres groupes. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont mieux réussir dans leurs études en général non plus. Enfin, on ne va pas extrapoler, mais en l'occurrence, sur ce test-là fait dans la chambre, il y avait un impact positif de la présence de nature. Une expérience comparable a été menée en Norvège. Et cette fois, la nature n'était pas présente par le biais du paysage extérieur, mais par le biais de plantes vertes, tout simplement présentées dans un bureau. Donc là encore, on testait les performances d'étudiants à l'aide d'un test d'empan de lecture. Donc c'est un test dans lequel en fait, on demande aux gens de solliciter leur mémoire de travail courte. Donc en fait, ils doivent mémoriser des informations et ensuite les redonner au moment où on leur demande, éventuellement, pas forcément dans l'ordre en fait, d'apparition, d'enregistrement des informations. Et là encore, donc, la cohorte qui a travaillé dans les bureaux où il y avait des plantes vertes avait de meilleurs résultats. Et ce qu'ont suggéré les auteurs, c'est que les différences dans les performances pouvaient être expliquées par le fait que la vue de la nature, même sous forme de végétaux en pot, donc bien sûr ce n'était pas des micro-pots de cactus, hein, ils étaient quand même un petit peu imposants, en tout cas cela favorisait la survenue de courtes pauses pendant lesquelles l'attention non dirigée prenait le relais et permettait à l'attention dirigée, donc aussi à la mémoire de travail, de se reposer et d'être rapidement fonctionnelle à nouveau. Alors très rapidement, il y a le même genre d'expérimentations qui ont été produites en Australie, alors sur des cohortes plus larges, hein, d'élèves du primaire, donc entre 300 et 400 élèves d'école primaire, qui bénéficiaient également de plantes en pot ou de vues de la nature par leur salle de classe. Et là encore, on a vu donc une augmentation en fait, des performances avec des tests qui ont été produits notamment donc avant la mise en place de pots de végétaux dans les classes et après la mise en place de ces végétaux, avec bien sûr des groupes témoins qui ne bénéficient pas de présence de nature. Donc c'est des choses qui ont été expérimentées pas seulement en milieu universitaire, hein, c'est ça que je veux dire par là. Ce qui me fait dire aussi que l'intégration de la nature aux bibliothèques, elle est intéressante pour nous, pas seulement pour certaines catégories de la population auxquelles on pense ici spontanément comme les populations universitaires, mais bien sûr concerne aussi par exemple les enfants qui, durant leur journée d'école, mobilisent beaucoup leur attention et qui, quand ils viennent faire leurs devoirs par exemple à la bibliothèque, doivent encore la mobiliser et où la bibliothèque, pour moi, peut vraiment aider également par l'environnement qu'elle va mettre à disposition de ces populations. Et il me semble aussi, donc si on va un peu plus loin, c'est que de cette façon, la bibliothèque joue aussi son rôle social. Donc bien sûr qu'elle le joue en mettant à disposition de tous des biens culturels, mais il me semble qu'elle peut le jouer également, ce rôle social, en offrant des espaces de travail librement accessibles à tous, qui favorisent vraiment les pratiques, quelles qu'elles soient, mais ça peut être aussi des pratiques de lecture, qui elles aussi vont solliciter l'attention. Alors, quelques exemples de bibliothèques qui utilisent la nature pour favoriser ces pratiques. La bibliothèque Viki de Helsinki, donc il y a deux jardins intérieurs, le jardin romain et le jardin égyptien, par référence à deux grandes aires culturelles. Donc ici, on voit le jardin romain qui est essentiellement utilisé par des groupes d'enfants, même si en fait c'est une bibliothèque qui est à la fois universitaire et publique, donc il accueille vraiment différents types de populations. Mais ce jardin romain, il donne sur l'espace enfant, donc l'espace jeunesse, donc ce que vous voyez derrière, les livres que vous voyez un peu en arrière-plan, ce sont des livres jeunesse. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai visité cette bibliothèque, il y avait des groupes d'enfants gardés par des assistants maternels, masculins, mais, qui venaient dans cet espace lire et parler, ce qui leur permettait également de faire plus de bruit, tout simplement, et de bénéficier de la nature, y compris dans des moments où, à Helsinki, en hiver, par exemple, bien sûr, ça peut être tout à fait recouvert de neige à l'extérieur, et donc on ne va pas avoir facilement accès à la nature. Donc là, c'est la vue du même espace depuis l'espace presse, où on peut venir travailler. Donc ici, vue du jardin égyptien, qui est également équipé de Wi-Fi, de sièges, de tables, où viennent davantage les étudiants, qui viennent y travailler, y parler, faire du travail en groupe. Donc ici, ce qu'on voit également, c'est que c'est un bâtiment qui a été conçu de manière à ce qu'il y ait une présence de la nature intérieure et extérieure. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que de quasiment toutes les places de travail, on voit les espaces extérieurs ou les jardins intérieurs. Alors moins spectaculaire, mais intéressant, parce que plus proche de nous, toujours la bibliothèque Louise Michel avec sa terrasse à l'extérieur. Alors ici, on a l'impression qu'elle n'est pas du tout végétalisée, mais ce qui m'intéresse, c'est que depuis cette terrasse, on a une vue sur un jardin, alors qui est un jardin privé, mais avec des grands conifères. Et il se trouve qu'on a notamment en été cette terrasse qui est utilisée pour l'aide aux devoirs des enfants du quartier. Donc là, on a vraiment une exploitation de cet espace, même si elle n'est pas forcément pensée comme ça, pour favoriser justement l'apprentissage. Alors, une question pour terminer très rapidement. Quelle conception de la bibliothèque véhicule-t-on finalement quand on promeut ces jardins de bibliothèque? Ou quelle bibliothèque sommes-nous prêtes à défendre en fait pour nos usagers? C'est, il me semble, la question que la psychologie environnementale nous conduit à poser. Parce qu'il me semble que ce qui est interrogé ici, c'est la question suivante. Est-ce que nous sommes prêts à prendre vraiment en compte, dans leur ensemble, les processus qui se déroulent dans la bibliothèque? Par exemple, est-ce que nous sommes conscients que si nous voulons aider les usagers à se concentrer, à régénérer leur attention, c'est très important de leur offrir, certes, un mobilier ergonomique ou une luminosité suffisante, mais aussi des espaces qui vont leur permettre de se détendre, de régénérer cette attention? Est-ce que nous sommes prêts à prendre en compte le fait qu'une bibliothèque universitaire a aussi un rôle à jouer dans la réduction du stress chez nos étudiants, dont on sait bien qu'au moins périodiquement dans l'année, ils vivent un niveau de stress important? Donc il me semble qu'on peut utiliser les outils offerts par la psychologie environnementale pour penser les espaces de la bibliothèque dans leur globalité et nous inscrire en fait dans ce qu'on appelle l'expérience usagée, qui est largement diffusée aux USA et puis voilà, qui gagne ses lettres de noblesse aussi en France, et qui consiste à lire les espaces en essayant de manière systématique de nous fonder sur la façon dont les publics vivent ces espaces et non pas sur la façon dont nous pensons, par exemple, qu'ils devraient les vivre ou dont nous croyons qu'ils les vivent. Et d'après les rencontres que j'ai faites dans les bibliothèques dans l'élaboration de cette étude, il me semble possible d'affirmer que les obstacles à plus de nature dans les bibliothèques tiennent souvent moins aux contraintes budgétaires ou matérielles qu'à la représentation que nous nous faisons de nous, notre métier, et du lieu qu'est la bibliothèque. Par exemple, tant que nous pensons que le jardinage représente un simple hobby sans autre impact sur la sociabilité ou le bien-être de nos usagers, ou que la présence des plantes en pot évoque pour nous l'image de notre vieille voisine qui parlait à ses bégonias, eh bien nous aurons du mal à légitimer la présence de nature dans les bâtiments de bibliothèques et dans les services des bibliothèques. C'est pour ça qu'il me semble important de nous appuyer sur les arguments développés par les chercheurs, que ce soit en psychologie environnementale ou peut-être d'autres domaines de recherche que je n'ai pas explorés ici. Et de manière un peu provocatrice, j'ai envie de dire, à quand dans nos bibliothèques des fiches de poste où on fera apparaître les heures de jardinage comme des heures de service public ?
Merci Catherine. Alors à quand des vendanges en bibliothèque?
Pourquoi pas?
Avec des cuvées Marguerite Duras ou Michel Houellebecq. Si vous avez des questions à poser à Catherine, c'est le moment. Alors, je vous recommande peut-être de vous présenter comme on enregistre avant de... Mathilde.
Alors, bonjour, je suis Mathilde Servet, je travaille à la BPI. Et j'ai trouvé très, très intéressant votre intervention. Moi, je serais pour, d'ailleurs, qu'on ait plein de plantes à la BPI, ça serait merveilleux. Est-ce que vous connaissez des projets d'équipements futurs qui souhaiteraient intégrer davantage de nature ou de plantes en France?
Alors, je crois que juste avant notre entrée dans cette salle, on parlait du campus Condorcet, mais donc je suis pas du tout la mieux placée pour en parler, qui apparemment donc a un projet intéressant d'intégration du végétal. Il y a aussi l'Iliade à Lille actuellement, donc en cours de construction qui se termine, où les espaces naturels tiennent une place très importante. Alors c'est pas tout à fait encore aménagé, donc moi j'attends de voir avec curiosité et impatience ce qui va être fait concrètement et comment ça va être intégré aux espaces de la bibliothèque. Mais je pense que ça va être aussi un projet en France, en tout cas très intéressant. Mais peut-être que du coup...
On va donner la parole à Odile Grandet directement. Ouais. Il y a aussi Thionville hein, avec la surface végétalisée. Pardon.
Oui, merci Odile Grandet, Campus Condorcet. Peut-être prendre les choses à l'envers pour parler du Campus Condorcet et aussi du projet de Lille, qui est de la même période. C'est que les contraintes environnementales conduisent les architectes et les chefs de projet et les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage en général à opter pour des bâtiments qui sont beaucoup plus végétalisés qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut en tenir compte. La deuxième chose, et j'ai beaucoup apprécié dans votre présentation cette question de la restauration de l'attention, c'est qu'effectivement, quand on construit une bibliothèque ou quand on construit un musée aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment on va faire pour que l'individu qui passe la porte de cette institution, que ce soit une porte matérielle ou virtuelle d'ailleurs, puisse poser ses bagages d'une certaine manière, se sortir du chaos de la vie en général et rentrer dans la rencontre avec l'œuvre ou la lecture ou le travail académique, peu importe. Et d'une certaine manière, je trouve que le jardin de la BNF ou la vue sur le ciel qu'offre la bibliothèque de recherche du musée du Quai Branly sont des manières d'assurer cette sortie de la, enfin cette restauration de l'attention. Pour revenir au projet du campus Condorcet, effectivement, il y a un projet dans le projet du couple Porzamparc qui a remporté le concours. Il y a un projet de jardin d'environ 1000 mètres carrés en pleine terre. Et puis, quelque chose qui était inscrit dans la programmation auquel on tenait beaucoup, qui sont des terrasses de lecture et qui sont des espaces qui seront végétalisés en grande partie pour répondre aux contraintes environnementales, mais aussi pour traiter ce qu'on appelle la cinquième façade et qui sont liés à cette nécessité de donner du confort et de permettre à l'usager de passer un temps long dans un espace qui ne soit pas confiné. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Merci.
Et si je peux réagir donc à ce qui a été dit par Odile Grandet, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les contraintes environnementales font qu'on va intégrer effectivement spontanément davantage de verre dans nos établissements. Pour autant, il me semble que c'est deux argumentaires assez différents et qu'on doit être assez prudent dans le fait que l'enjeu environnemental en fait a parfois tendance à être mis au premier plan, à occuper toute la place, au détriment d'une réflexion véritable sur comment on intègre ces éléments de nature dans les services qu'on offre à nos usagers. Et donc il faut être très prudent. Pour moi, là en l'occurrence, on voit bien que dans le campus Condorcet, il y a une réflexion sur ce plan-là, c'est-à-dire comment on veut utiliser effectivement ces éléments environnementaux pour offrir un meilleur service à nos usagers. Mais on a aussi des cas dans lesquels on a l'impression que l'argument écologique se suffit à lui-même. Donc on a bonne conscience un peu parce qu'on a verdi la ville, on a fait un bâtiment écologique. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là qu'il me semble que c'est très important aussi d'avoir des arguments qui nous permettent de dire oui, c'est tout à fait légitime d'utiliser ce verdissement comme service à part entière de la bibliothèque. Voilà. Donc tout simplement pour dire voilà, que les deux arguments, pour moi, ne sont pas tout à fait toujours imbriqués. Enfin, il faut les penser séparément.
Oui, bonjour. Je m'appelle Benoît Cazel. Je suis référent des ressources numériques dans les médiathèques de Cergy. Je voulais faire, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais plus une petite réflexion pour parler du projet de la canopée, en fait, qui est à deux pas d'ici et où, finalement, en étudiant le plan que j'ai vu de la médiathèque et même de la structure du bâtiment en lui-même, lui-même rappelle une forme de nature dans sa structuration, dans son agencement, etc. On voit que, par exemple, il y a très peu de lignes droites, puisque la droite n'existe pas en nature, il y a beaucoup de courbes, et que l'éclairage et que la luminosité naturelle est pensée en fonction, je crois, d'une feuille géante pour laisser passer qu'une partie de la luminosité, et à la fois, à travers cette grande baie vitrée de la future médiathèque, il y a vraiment un immense jardin. Donc, pour le coup, c'est un projet qui va, pour moi, un petit peu au-delà de ce que vous dites, dans le sens où, dans son architecture lui-même, il y a une conception de nature, même si ça se définit avec le bâtiment physique, des murs, des vitres, etc. Il y a une notion de nature dans l'architecture lui-même, quoi. Donc c'est peut-être une étape supplémentaire en fait.
Ouais, enfin moi je dirais pas. Enfin c'est très intéressant cet exemple. Je dirais pas que c'est une étape supplémentaire parce que pour moi c'est une autre conception en fait de la nature. C'est-à-dire que là on est dans une conception symbolique en fait du jardin. Je pense que Floriane va en parler parce que c'était vraiment plus précisément ça faisait partie du sujet de son étude. C'est-à-dire les différentes manières dont on peut penser notre relation à la nature. Alors il y a l'aspect esthétique, l'aspect symbolique, il en fait partie et pour moi c'est ce que vous évoquez ici. Et pour moi en fait cet aspect impact sur le bien-être, c'est l'une de ces manières possibles en fait d'appréhender la nature.
Voilà. Et ce qui sera la dernière question, je pense.
C'est juste un commentaire. J'ai pu dire que moi, je suis Maria Witt, donc fraîchement retraitée. C'est comme ça que je me suis présentée sur la fiche d'inscription. Et je regrette être en fin de vie professionnelle. Peut-être que ce n'est pas encore la fin, parce que la nature m'a énormément manqué dans des bureaux ou dans des salles. Et bon, prenons notre exemple. C'est très bien de parler de la nature dans un environnement qui n'est pas entouré de la nature, ne serait-ce que je parle du centre Pompidou. Ça m'a toujours manqué d'arriver dans un environnement même un peu plus urbain. Bref, c'est. Mais tout au long de ma vie, j'ai essayé de m'organiser pour bénéficier de la nature. Je m'explique. Tous les travaux des recherches que je vais ou des publications que je devais mener matin, midi et soir, parce que je travaillais à la Villette pendant 20 ans, et c'était un travail très prenant. Donc si je prenais d'autres choses à faire, c'était matin, midi et soir. J'essayais de le faire en plein air. En plein air, c'était où ? Aller dans les jardins qui grandissaient à la Villette. Ou j'emmenais mes documents pour traduire pour l'IFLA, par exemple, dans les plages. Donc j'ai fait plein de choses dans la nature. Je sais que la nature m'inspire personnellement, mais j'ai pu faire certains travaux dans un environnement qui n'était pas aussi technologique. Aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas pu mener toutes ces bricoles, toutes ces bibliographies que j'ai révisées, que j'ai corrigées, sans l'ordinateur. Mais j'ai décidé de me déconnecter de l'ordinateur. Et à l'IFLA, précisément à Lyon, il y avait une communication qui parlait du beau. Mais je ne me rappelle plus si c'était dans les bibliothèques des hôpitaux, si c'était dans les hôpitaux, parce que je pense que le beau ou la laideur concerne pas seulement les bibliothèques, c'est les hôpitaux, l'environnement musical aussi, pour ne pas citer la dernière philharmonie de Paris. Allez là-bas, voyez comment c'est agréable d'entrer. Je veux dire, l'acoustique est très bonne, mais il faut passer par les obstacles infranchissables. Et d'autre part, il y a des jardins qui sont inaccessibles. Je voulais citer juste l'exemple d'une bibliothèque de Paris. À Yourcenar, il y a un jardin que l'on ne peut pas exploiter parce que les habitants aux alentours sont contre. Et quid de mettre des bibliothèques dans les jardins? Je pense, l'exemple des parcs floraux me vient à l'esprit. Pourquoi ne pas sous-louer un peu du parc pour mettre une activité de lecture?
Merci. Alors ce qui me paraît très intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est vrai que là, j'ai ancré beaucoup les choses où je l'ai dans la perspective usager, hein, comment on va offrir des services à nos usagers en intégrant plus de nature dans nos bibliothèques. Mais vous avez raison de souligner que ça a aussi un impact sur notre environnement de travail en tant que bibliothécaire. Et on en a un exemple éminent à la BPI, où effectivement c'est un environnement assez minéral, mais quand vous allez dans les bureaux, moi j'étais impressionnée de voir la forêt vierge qu'il y a dans les bureaux en interne ici.
Elle parle de plantes, hein, bien sûr.
Oui.
Je rappelle qu'en 77, quand la BPI a ouvert, en tout cas, très vite, il y a eu des plantes vertes, voilà, qui aujourd'hui ne sont plus là. Mais bon, il pourrait y avoir un retour de cette histoire. On pourrait parler aussi, on aura peut-être l'occasion avec Floriane Deriva et dans le débat qui suivra, des conservatoires de graines aujourd'hui dans les bibliothèques, hein, des conservatoires de plants, voire des AMAP qui sont accueillis aujourd'hui dans les bibliothèques publiques. On parlera un peu de ça aussi pour l'Argentine. Du coup, Floriane Deriva, la transition est toute trouvée. Merci Katrina. Donc on pourra retrouver votre mémoire en ligne.